C'est ça. C'est que je vois que je me tiens devant vous aujourd'hui. Et je propose d'ouvrir vos Bibles au passage sur lequel je vais parler. Dans Colossiens. Chapitre 1, versets 12 à 23. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Si, du moins, vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que aujourd'hui tu nous parles encore à travers ta parole, et je te prie pour que au moment où je vais prendre la parole et que je vais expliquer ce texte, Seigneur, que ce soit pas juste ce que j'ai analysé ou quoi, mais que vraiment tu te serves de moi pour que ce que je dis, ça vienne vraiment de toi, Seigneur. Enlève tout ce que je pourrais éventuellement filtrer, Seigneur, mais que vraiment tout ce que je dis soit inspiré par toi, Seigneur. Je te prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant d'aborder ce texte, je propose juste de regarder un peu ce qui se passe un peu avant, dans le chapitre 1. Et en fait, dans cet épître, Paul félicite les Colossiens. Il remercie Dieu et il prie pour qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté, de la connaissance de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est pas la volonté de, peut-être par exemple, de connaître notre futur conjoint, notre futur travail d'avance, mais sa volonté, la volonté de Dieu, c'est son but, c'est de marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être agréable. En gros, la volonté de Dieu, c'est qu'on soit sanctifié comme lui et qu'on fasse des bonnes œuvres. Aujourd'hui, par rapport au passage, est-ce que tu peux avancer la slide d'après, s'il te plaît, Abraham, et reste dessus. Voilà, super. Aujourd'hui, je propose d'aborder le texte sous trois parties. D'abord, on verra que nous sommes appelés à être reconnaissants, Père, de nous avoir libérés par le Fils. Puis nous verrons dans un deuxième temps que le Fils est la source et l'aboutissement de toutes choses, en témoigne le sang de la croix. Et en troisièmement, nous verrons que les croyants sont au bénéfice de la réconciliation s'ils persévèrent dans l'évangile de Jésus-Christ. Donc dans un premier temps, attardons-nous sur le verset 12 au verset 14. Par quand on parle du Fils, il est bien sûr fait allusion à Jésus-Christ. Le Fils est une personne de Dieu. Il a donc tous les attributs glorieux de Dieu. Et il est dit dans le verset 14 que nous avons dans le Fils la rédemption, c'est-à-dire le pardon des péchés. Rédemption, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je propose, c'est de prendre une image. Pour comprendre la rédemption, imaginez un esclave. Imaginez un prisonnier, un esclave. Imaginez à l'époque des Romains, en moins 100 avant Jésus-Christ. Imaginez par exemple si vous avez vu Spartacus. Il a les fers aux pieds, il est maltraité par son maître. Il se fait fouetter. Et en fait, cet esclave, pour être libéré, il faut que quelqu'un paye une rançon, une somme pour le racheter en échange de sa liberté. Imaginez maintenant que vous êtes cet esclave, que vous êtes prisonnier du monde des ténèbres et de vos péchés. Pourquoi ? Parce que dans la création, Adam et Ève étaient en communion parfaite avec Dieu et qu'au moment où ils ont mangé de ce fruit de l'arbre défendu, le péché est entré dans le monde afin que toute personne qui naît à sa naissance avait cette nature pécheresse en elle. Et si bien qu'aujourd'hui, quand on voit le monde, quand on voit le mal dans le monde, pourquoi il y a la souffrance ? Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Et parce que nous avons une nature mauvaise, nous faisons des choses mauvaises. Parce que nous avons un cœur pécheur, nous commettons des péchés. Et nous sommes prisonniers de nos péchés, nous sommes prisonniers des ténèbres. Mais Dieu, le Père, a un plan merveilleux, nous dit la Bible. Il est supérieur à la puissance des ténèbres et à son roi, le roi de la puissance des ténèbres. Quel est ce roi ? C'est le diable, c'est Satan. Et il envoie, donc Dieu envoie son fils Jésus-Christ pour payer le prix de la rançon, c'est-à-dire son sang qui a coulé sur la croix. En gros, pour avoir la liberté, il a fallu quelque chose en échange. Et cet échange, c'était le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Pour nous libérer, non seulement de nos péchés et de la puissance des ténèbres, comme le dit le verset 13. Et il l'a fait, Dieu l'a fait, pour nous transporter dans son royaume et afin que nous ayons la vie éternelle. Et ça, c'était impossible par nous-mêmes de le faire nous-mêmes, en fait, de nous transporter nous-mêmes. C'est impossible pour les hommes de se libérer par nous-mêmes. Romains 3, verset 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 11 nous dit aussi que nul n'est juste. Il a donc fallu l'intervention de Dieu. La rédemption, comme je l'ai dit, c'est donc le rachat de nos péchés. Car nous en étions esclaves et le Fils nous a libérés de cet esclavage. 1 Corinthiens 6, verset 20 nous dit que nous avons été rachetés à grand prix. Nous sommes passés du stade d'esclaves du péché à des êtres libérés par Jésus-Christ. Nous sommes ainsi passés du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Mais quel est ce royaume ? On parle de royaume des ténèbres, de royaume des lumières. Mais quel est ce royaume des lumières, ce royaume des cieux qu'on entend peut-être parler des fois dans les évangiles ? En fait, il s'agit d'un nouveau royaume où règne la souveraineté de Dieu. Un nouveau royaume où il y a un nouveau roi, où il y a un peuple avec une nouvelle citoyenneté, avec des nouvelles règles de vie. Il y a aussi une annonce du retour de ce roi qui va juger. En fait, pour le croyant, le royaume, c'est la vie nouvelle avec Jésus-Christ. On a d'un côté le Père qui pardonne les péchés et Jésus-Christ qui nous permet d'avoir cette relation rétablie avec Dieu et grâce aussi au don du Saint-Esprit en nous. Maintenant, on va prendre un exemple. Alors, c'est dommage, Laurent n'est pas là. Mais on va prendre l'exemple d'Abraham. Alors, Abraham, imaginons que... Parce qu'il habite à Créteil. Ça va, Abraham ? Ok. Bon, imaginons qu'Abraham ne sait pas nager. Et il a joué avec les enfants et tout près du bord de l'eau. Et puis, de la marne, là-bas, juste derrière. Et puis, en fait, sans faire exprès, il tombe dans l'eau. Et il se noie parce qu'il ne sait pas nager, comme je l'ai dit. Et puis, imaginons maintenant que... David Chenu, qui a son brevet de maître nageur sauveteur 3e classe, passe par hasard, comme par là, et bah, forcément, comme il a cette aptitude à le sauver, bon, bah, il se jette à l'eau, comme Abraham est super léger, le tire avec une main, ça suffit, et David est tellement fort, voilà. Il le sauve, il le tire d'ici, il le sauve. Quelle est cette l'attitude finalement d'Abraham à l'égard de David ? Je pense que ça serait vraiment une attitude de reconnaissance à son égard. Et tout ça juste parce que il a sauvé une fois de la mort terrestre. Et là, j'aimerais nous faire un parallèle. Quelle devrait être notre attitude envers Dieu qui nous a sauvés une fois pour toutes de la mort éternelle et du feu de l'enfer ? Si aujourd'hui c'est la première fois que tu entends ce message, je t'invite à vraiment réfléchir à ta vie. Et n'hésite pas à donner ta vie à Jésus-Christ. Prie Dieu chez toi et demande-lui de te libérer et de vivre ta vie pour lui. Car après tout, si Dieu t'a sauvé vraiment de la mort éternelle, ne devrait-il pas devenir le but de ta vie ? Cette invitation s'adresse aussi à toi, mon frère, ma sœur, chrétien, qui traverse aujourd'hui peut-être une période difficile et qui remet beaucoup de choses en question pour des raisons que peut-être que j'ignore. Mais sache que Dieu est là et qu'il t'attend et qu'il est prêt à te pardonner encore une fois. Nous avons vu du verset 12 au verset 14 que le Fils est le moyen utilisé par Dieu pour nous racheter, pour nous libérer de la prison des ténèbres, pour nous faire passer au royaume de lumière du Fils. Mais maintenant, qui est ce Fils ? Quelles sont ses origines ? quels sont ses attributs? Regardons le verset 15 au verset 20. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Il est dit dans la parole que Dieu est esprit. C'est-à-dire qu'il y a quatre caractéristiques. C'est qu'il est invisible, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Il est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Il est immatériel, c'est-à-dire qu'il est, contrairement à nous qui sommes matériels, il est spirituel. Il est omnipotent, il est présent partout. Et finalement, pour avoir accès à ce Dieu qui a ces quatre caractéristiques et qui est entre autres invisible, il faudrait que ce Dieu se révèle à nous. Et il l'a fait, heureusement pour nous. Il l'a fait de deux manières. Par l'incarnation de Jésus-Christ, au verset 15, parce que le Fils, il écrit, le Fils est l'image de Dieu le Père. Également, il l'a fait à travers les Écritures qui parlent de ce Fils. Deuxième chose qu'on apprend, du verset 15 au verset 20, on voit que le Fils est l'origine de toute chose. Le Fils est le premier-né de toute la création, le premier-né d'entre les morts. Donc, toute la création, verset 15, premier-né d'entre les morts, verset 18. En fait, c'est une image pour dire qu'il était avant toute création, qu'il était avant les morts, c'est-à-dire ceux qui, finalement, ont vécu. Il est donc le point de départ de la création. Autre chose, le Fils n'existe pas. Il est avant toute chose, verset 17. Il est donc en dehors de la ligne de temps. Il est la source de la création. Jean 8, verset 58, Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et dans toutes les choses dont on parle, dans verset 16 au verset 17, on parle des choses qui sont dans les cieux, comme les anges et les choses invisibles, mais également des choses qui sont sur la terre, comme les animaux, les hommes, les plantes, les choses visibles. On parle aussi de trône, de dignité, de domination, des autorités qui sont en fait humaines, mais je pense aussi personnellement que ça peut être aussi des choses célestes. Et le Fils est le commencement, verset 18, il est avant tout le premier, il est l'origine de toute chose. Et tout a été créé par lui. Jésus-Christ est donc la source de ce processus de création. Et toutes choses ont été créées pour lui. Parce que cette création, elle est pour Jésus-Christ. Jésus est donc à la fois la source et le but, la cause, la conséquence, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Et toute chose, nous dit le verset 17, subsiste en lui. Tout repose en Jésus-Christ. Jésus-Christ a non seulement créé les choses, mais en plus, ces choses-là tiennent en équilibre grâce à lui. Ce qui est important aussi pour nous en tant que chrétiens, c'est que il est la tête du corps de l'Église, nous dit le verset 18. L'Église est donc comme un corps, comme nous le dit 1 Corinthiens verset, chapitre 12. Et celui qui dirige l'Église, qui en est le chef, ce n'est pas le pape, ce n'est pas Pasteur Nguyen, même si je l'aime beaucoup, ce n'est pas John Piper, ce n'est pas Charles Spurgeon, ce n'est pas Joyce Meyers, mais c'est Jésus-Christ qui est notre chef. Il est donc notre autorité suprême. Et finalement, si la Bible elle renferme les enseignements de notre autorité suprême qui est censée être Jésus-Christ, si la Bible renferme les enseignements de Jésus-Christ, la Bible doit aussi être notre source d'autorité dans nos décisions. Par exemple, est-ce que je dois faire un compromis en téléchargeant de la musique sur Internet, comme tout le monde le fait de toute façon? Est-ce que je dois fréquenter telle fille malgré le fait qu'elle ne soit pas chrétienne? Que dit la Bible à ce propos? C'est une bonne question. Un autre aspect enfin dans ce passage, c'est la réconciliation qu'on a avec le Père grâce à Jésus-Christ, par le sang de la croix. Le sang de la croix où le Fils Jésus-Christ s'est donné. Et ça a permis de réconcilier Dieu avec tous ceux qui sont sanctifiés, tous ceux qui sont saints, tous ceux qui sont mis à part pour Dieu. Et ils sont sanctifiés, ils sont saints, non pas parce qu'ils ont fait des bonnes choses, etc., mais ils sont saints parce qu'ils ont été lavés par le sang de Jésus-Christ. Et on parle ici de réconciliation parce qu'il s'agit d'une restauration d'une relation qui était autrefois brisée. Dieu lui-même est saint, donc soyons nous aussi saints à son image. Nous avons vu dans cette deuxième partie que la réconciliation et la paix avec Dieu se fait grâce au prix payé par le Fils Jésus-Christ à la croix, mais aussi grâce à l'acceptation du Père de ce sang. À partir de là, je vous exhorte à louer Dieu, premièrement qui nous a réconciliés avec lui, et aussi à louer Jésus-Christ qui a donné sa vie en rançon pour nous libérer. Regardons maintenant la troisième partie du verset 21 au verset 23. où nous voyons que les croyants sont au bénéfice de la réconciliation, sous certaines conditions. Nous étions, le verset 21 nous dit que nous étions les ennemis de Dieu, à cause du péché. On peut pécher de trois manières. Dans nos pensées, on peut pécher dans nos actes, pour des choses que nous avons faites, ou dans les actes que nous n'avons pas faits, pour des choses que nous n'avons pas faites. Donc en acte, en pensée et par omission. On peut pécher de trois manières. Et le but du Fils, le verset 22 nous dit que le but du Fils est de nous rendre saints, c'est-à-dire sans défaut, sans reproche, être mis à part, grâce au sang de l'agneau. Et quand on parle de bonnes œuvres, qui découlent finalement du fait qu'on est sanctifié, parce que nous sommes saints, nous allons faire des bonnes œuvres. Et nous allons faire des bonnes œuvres, Colossiens 1, verset 10 et Éphésiens 2, verset 10, sont les passages où on parle des bonnes œuvres. C'est vraiment en opposition avec le statut d'étranger et d'ennemi où nous faisions que des mauvaises œuvres à cause du péché. Donc d'un côté, on était ennemis de Dieu, on n'avait pas Jésus-Christ, et on faisait des mauvaises œuvres à cause de notre nature pécheresse. Et par le sang de Jésus-Christ, on est une nouvelle créature, et nous faisons des bonnes choses, des bonnes œuvres. Non pas parce que on a fait quelque chose de bien, mais parce que Jésus-Christ fait quelque chose de bien en nous à travers son Saint-Esprit. Et moi, à titre personnel, je me suis converti à 17 ans. Et en fait, je commençais à fréquenter une église, j'y allais de temps en temps, parler de Jésus, etc. Et moi, j'avais à peine compris la notion de sauveur, etc. Et être chrétien, pour moi, c'était « Ok, bon, j'ai éternité avec Dieu, je suis sauvé de la mort, alléluia, trop bien. » Mais en fait, je savais pas ce que ça impliquait vraiment. Et à force de fréquenter l'église, le milieu chrétien, bah forcément, on entend pas mal de fois l'évangile, heureusement. Et progressivement, c'est là que j'ai compris que avant j'étais vraiment mauvais et qu'avant j'étais vraiment pécheur. Mais que Dieu, dans son amour, m'avait premièrement réconcilié avec lui et que ça lui avait coûté beaucoup. Et c'est-à-dire son fils qui a été échangé en rançon pour ma vie, donc la rédemption. Et aussi, je me suis rendu compte que Dieu, dans son amour, m'avait changé spirituellement pour que je vive une vie qui était sainte. Et ça, c'était impossible avant, mais maintenant que j'ai le Saint-Esprit, je peux le faire. Il y a une mise en garde aussi envers nous dans ce passage, nous les croyants. Il y a une condition, et cette condition, c'est de demeurer fondé, au verset 23, fidèle, c'est-à-dire ne pas bouger, en opposition avec, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Matthieu 7, verset 26 à 27, avec le fou ou l'insensé qui a fondé la maison dans le sable. Nous devons vraiment poser le bon fondement sur Jésus-Christ. Et également de demeurer et de rester sur le chemin de l'évangile qui a été prêché, et de pas n'importe quoi, mais vraiment de l'évangile de Jésus-Christ qui a été prêché par Paul justement, ou par ce qui est écrit dans sa parole, de l'évangile qui a été prêché et qui a été entendu. Quand on parle d'évangile, du coup, c'est l'évangile de Jésus-Christ, et non pas comme par exemple les Galates qui suivaient un autre évangile et qui se sont détournés. Et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Soit il l'est, soit il ne l'est pas. Mais en tout cas, il affirme. Enfin, soit on croit qu'il est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Soit on croit qu'il ne l'est pas. Soit il a raison, soit il a tort. On ne peut pas dire qu'il a raison, mais du coup Mahomet aussi a raison, mais que du coup Bouddha aussi a raison. Forcément, c'est exclusif. Si Jésus dit « Je suis la vérité », soit je crois que c'est vrai et tout ce qu'il dit est vrai. Sinon, je peux croire que c'est un fou. Parce que seul un fou peut prétendre qu'il est la vérité. Et l'évangile, il a été entendu, il a été prêché en parole. D'où la puissance de la proclamation. Et c'est pas seulement, du coup, quand on témoigne à notre entourage, c'est pas seulement témoigner en acte, mais je trouve que c'est vraiment aussi important de témoigner en parole et de pouvoir annoncer aussi cette bonne nouvelle que nous avons envie de partager parce que nous avons été sauvés. Et cet évangile nous dit dans ce passage qu'il a été prêché à toute créature sous le ciel, c'est-à-dire sur la terre. Et finalement, ici, Paul est en train d'utiliser un sens d'hyperbole pour dire que l'évangile doit être prêché à tout le monde, sans distinction sociale, raciale et culturelle, afin que tous puissent avoir la paix avec Dieu. Et afin de demeurer dans l'évangile de Jésus-Christ, nous pouvons être dans notre louange, dans notre louange, chanter des chants qui rappellent ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous. Parce que Jésus-Christ est le fondement de notre louange. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que nous sommes chrétiens et nous sommes à l'image de Jésus-Christ. Je te remercie car devant toi nous sommes justes, saints et parfaits. Non pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Et Jésus nous a rachetés, il nous a réconciliés avec toi, Seigneur. Seigneur, permets-nous encore de continuer à offrir notre louange à Dieu, comme le faisaient les Lévites dans l'Ancien Testament qui offraient à Dieu un parfum brûlé de bonne odeur. Aide-nous à continuer à te louer, Père, car nous sommes réconciliés avec toi, car nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Amen.